Ouellet. En direct.
On est comme dans le tombeau, là.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
Cette semaine, on vous a joué des extraits d'un podcast anglophone, Great Northern Discussion, où je pense qu'on jase de sujets peut-être plus reliés à l'Ouest canadien, parce que quand même, l'animateur avec son gros buckle de ceinture de cowboy puis son chapeau, tu sais, puis c'est... Puis moi, j'aime bien ça, voir un peu ce qui se passe ailleurs, parce que je l'ai répété quand même, tu sais, au Canada, c'est grand, c'est vaste, et chaque partie du Canada a ses spécificités, a sa moralité, a ses affaires. Puis c'est le fun, parce que si vous me dites que vous êtes dans un grand Canada uni, faut écouter les autres un peu de temps en temps. Puis c'est là que tu réalises que on n'a pas toutes les mêmes mentalités. Tu sais? Puis l'invité des extraits qu'on vous a fait jouer, c'est un gars qui s'appelle Martin Bélanger, qui parle bien, très bien français, mais qui vient en Alberta depuis fort longtemps. Puis lui, il a fait partie de cette vague d'exploration gazière et pétrolière au Québec qu'on a quasiment réussi à entreprendre à moitié avant de reculer violemment et d'un coup sec en se disant « Non, finalement, les gens n'aiment pas ça, le pétrole, là, puis on arrête tout ça. » Mais ça a quand même été une aventure intéressante, juste au moins pour nous mettre en dessous du nez que ce potentiel-là existe. Il y a clairement quelque part au Québec du gaz et du pétrole qu'on pourra peut-être un jour aller chercher ou peut-être pas. On va lui jaser, il a accepté de nous parler, puis je suis bien content. Il est l'ancien président de la compagnie qui s'appelle Petrolia, Martin Bélanger. Je le salue. Bonjour Martin, comment ça va?
Bonjour, ça va très bien. Hey, t'as fait un très bon sommaire de l'industrie pétrolière au Québec.
C'est-à-dire quoi? On n'est pas allé puis on a reculé violemment?
Non, c'est parce que... les Québécois ont... Écoute, je recule un petit peu. Il y a du pétrole sur le territoire québécois. Il y a du pétrole puis il y a du gaz parce que oui. Tu as juste à regarder une carte de l'Amérique du Nord. Tu vas voir qu'il y a du pétrole, tu sais, à New York, en Pennsylvanie. Puis là, il y en a à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick. Puis là, il y a un espace dans le milieu de la carte où il semble ne pas y avoir de pétrole. Mais c'est simplement parce que les Québécois refusent de le produire. Puis de la recherche pour le pétrole, il y en a eu à chaque génération. Tu sais, il y en a eu dans les années 60, puis là, il y en a eu dans les années 90, il y en a eu dans les années 2000, puis je suis certain que vous allez retourner chercher du pétrole la prochaine génération, tu sais, en 2030, en 2040.
Et pourquoi, puis tu sais, là, on tombe direct dans une espèce de peut-être d'analyse sociologique, là, mais pourquoi est-ce qu'on refuse? Puis tu sais, malgré tous les arguments qui pourrait nous amener à dire, écoute, on le sait là, que brûler du pétrole, c'est peut-être pas l'idéal, mais pour certains pays, c'est un avancé, le gaz naturel. C'est moins polluant que le charbon. On a besoin de pétrole. Donc, il y a quelque chose de très hypocrite là-dedans, de dire, moi, je mets de l'essence dans mon char à chaque semaine, mais je refuse de me salir les mains. J'aime mieux le faire venir d'ailleurs et traiter ces gens-là, du coup, de bande de sales, puis de pas propres, puis de gens qui veulent détruire la planète. Il y a comme un blocage québécois. Je sens que là, avec la menace américaine, on a finalement dit, oh, finalement, les pipelines, on pourrait, tu sais. Mais il y a quand même quelque chose de profond, là. On a un blocage assez sec, là.
T'as raison, c'est un blocage. Je veux dire, tu le mentionnes. Tu sais, le Québec aime bien croire. En fait, le Québec produit de la belle énergie électrique, là, hydroélectrique, c'est vert. Mais en même temps, t'as raison, vous importez, je sais pas moi, 2-3 millions de barils par jour de pétrole qui vient de l'Alberta en provenance à travers les États-Unis, mais ça vient aussi de l'Arabie Saoudite. Je veux dire, il y a une hypocrisie, c'est certain qu'il y en a une.
Ouais. L'histoire de Petrolia. Parce que vous étiez président. Est-ce que Petrolia existe? Parce que je suis allé, le site Internet est encore ouvert. Il existe encore, il fonctionne. Est-ce que Petrolia...
Ça a été racheté. Ah, OK. Ça a été acheté par une société albertaine qui s'appelle Perry Day, puis qui vient de changer de nom, qui s'appelle aujourd'hui Cavi Energy. Mais non, Petrolia, c'était une société purement québécoise, fondée autour de 2008 par un nommé André Proulx. André, il avait travaillé pour Hydro-Québec, puis pour une société québécoise qui s'appelait dans le temps la SOQIP, la Société québécoise d'initiative pétrolière. Ça fait que dans les années 70, le gouvernement avait une société qui faisait de la recherche de l'exploration. André, lui, il travaillait pour cette société-là, qui est devenue une société un groupe d'Hydro-Québec. Puis eux autres, ils ont vendu leur permis d'exploration. Puis André, lui, était géologue. C'est lui qui a acheté les permis d'exploration puis qui a fondé Petrolia.
Et Petrolia, l'aventure, parce que l'extrait qu'on a joué, il est incroyable. C'est là où tu réalises que nos gouvernements, nos fonctionnaires avancent dans le noir, à tâtons, en taponnant les murs. Bon, OK, ici, il semble avoir une porte. Tu sais, l'histoire des puits...
Mais ça change de temps en temps, parce que, tu sais, André avait fondé Petrolia. Moi, je suis arrivé chez Petrolia en 2013. 2012, 2013 à peu près. Puis là, on avançait les projets, puis on avait... Tu sais, ça change dépendamment du gouvernement. Pauline Marois, qui était la première ministre dans le temps, elle était absolument pour le développement des hydrocarbures. Ça fait que là, nous autres, on est partis de l'avance. Les projets avançaient. C'est pas toujours... Puis là, soudainement, il y a eu un changement de politique. C'était qui le premier
Philippe
ministre
Couillard.
Dans le temps, là? Philippe Couillard. Là, Philippe, quand lui est rentré, ça a changé du jour au lendemain. Puis des fois, ça change au niveau politique provincial, mais ça a aussi, des fois, ça change plus local. Je veux dire, sur Anticosti, on avait eu un changement de maire. Ça aussi, ça a eu des impacts. Oui, on peut blâmer en général les politiciens puis peut-être la population, mais des fois, c'est un changement vraiment politique.
Mais comment on fait pour naviguer là-dedans? T'sais, mettons là que, je sais pas, le prochain gouvernement dit « On est ouvert, nous autres. » Est-ce que les mêmes investisseurs vont remettre le même nombre d'argent en disant « OK, on y va » en sachant que dans 4 ans, on peut tirer à plug complètement de façon sec et sans équivoque?
Non, ça, c'est un problème, c'est pas juste un problème régional. Là, tu parles d'un problème d'envergure nationale. Je veux dire, on a le même problème au national, tu sais. Les politiciens font peur aux investisseurs. Puis surtout aujourd'hui, tu sais, investir, là, ça devient un projet... parlons spécifiquement de pétrole. Un projet de pétrole, ça a un cycle d'à peu près 2-3 ans. Tu sais, ça te prend un an à aller chercher les permis, ça te prend un an à organiser ton équipe, faire ton forage, après ça, installer tes installations puis produire ton pétrole ou ton gaz. C'est 3 ans. Les investisseurs ont peur d'investir parce que dans 3 ans, ça peut changer. Puis c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas juste au provincial, ça change au fédéral. Fait qu'on est en train de créer un problème au Canada en général parce qu'on fait peur aux investisseurs qui ont... Puis on fait peur... Tu sais, il y a du monde qui sont contre le pétrole, d'accord. T'as beau être contre le pétrole, mais en étant tellement opposé au pétrole, ils ont fait peur aux investisseurs qui éventuellement font peur aux mêmes investisseurs qui pourraient venir investir dans d'autres projets comme les éoliennes ou les fermes à salopes.
Effectivement, parce que si jamais on a investi des millions et des millions dans l'éolien puis que le prochain est super pro-pétrole, on va avoir peut-être le même problème. Mais ce qu'on raconte présentement, ça, je fais un lien direct avec ce qui est en train de se passer, entre autres au niveau, mettons, des pipelines. Où tu as eu une panique générale. Les Canadiens ont réalisé que notre pétrole qu'on achetait dans l'Est du Canada passait inévitablement par les États-Unis. Là, la menace américaine, tout le monde panique. Et là, soudainement, tout le monde est en faveur de pipelines. Même Mark Carney du Parti libéral dit « OK, les pipelines, c'est bon ». Et là, j'entends de façon un peu hypocrite des commentateurs dire « Mais il n'y a même pas d'investisseurs ». Mais en même temps, ce qu'on raconte là, ceci explique cela. C'est ça. Ouais. Là, tu dis, hey, vas-tu me lancer, moi, dans la construction d'un oléoduc, d'un pipeline de 4000 km, puis je vais me faire bloquer ça en plein milieu? C'est sûr qu'il y a de l'hésitation.
Puis là, je vais être franc avec toi. Il y a une différence entre le Québec et les autres provinces. Je veux dire, en Alberta, peut-être en Saskatchewan, on a fait peur aux investisseurs. Mais au Québec, vous avez vraiment, vraiment fait peur aux investisseurs. Parce que moi, je l'ai témoigné. Travailler au Québec, là, c'est absolument pas la même chose que travailler dans les autres provinces. C'est vraiment là, votre gouvernement puis vos municipalités, vos règlements sont très compliqués. Pas juste dans mon domaine, là, pas juste dans le domaine pétrolier.
Ça, c'est partout. Des
histoires, j'en ai vécu. T'en as parlé dans les extraits de la semaine passée. Je pourrais te raconter des histoires. J'en ai eu tellement pendant que j'étais au Québec. C'était fou rire.
Comme quoi, mettons, on enlève l'histoire des puits qui, pour moi, était hilarante. Là, l'histoire de le gars n'est pas au courant combien ça coûte. Tu charges 1 million, il paye 1 million, il pose pas de questions. Quoi d'autre? Je veux dire, en avez-vous une autre histoire?
Ben, tu sais, moi, j'avais une histoire, une de mes histoires favorites, c'est que j'avais fait venir de l'équipement de l'Ouest canadien jusqu'en Alberta, puis jusqu'au Québec. Puis, tu sais, c'est de l'équipement qui a traversé le pays au complet, là, qui est l'équipement...
On est dans le même pays, Crocs, là.
Il est dans le même pays, mais là, quand il arrive au Québec, il se fait arrêter. Puis là, tu sais, il y a un gars qui m'appelle, il dit, écoute, il faut que tu viennes ici, Martin, là, ça n'a pas de bon sens. Puis j'essaie de raisonner avec l'inspecteur. L'inspecteur, là, il n'y avait pas... Le camion que je faisais venir de l'Alberta, il n'était pas dans son cahier, dans son petit livre. Il ne savait pas c'était quoi, le camion. Il était en train de prendre des mesures, etc. Il voulait voir nos permis. J'ai dit, hey, ça n'a pas de bon sens. Ce camion-là, là, il est légal. Il a traversé le pays, mais au Québec, ils ont tout fait pour essayer de... Non, c'était juste qu'ils l'ont bloqué. Le camion est resté stationné sur le bord de la route.
Vous aviez des permis d'exploration? Vous aviez besoin de l'équipement?
J'avais tout ce qu'il me fallait. Tout ce qu'il me fallait.
Mais le gars du camion, lui, ça passait pas.
Ça passait pas. Hey, écoute, moi, te conter une histoire, ça me surprend. Tu l'as pas raconté la semaine passée dans les extraits, mais moi quand je travaillais sur Anticosti, là, tu l'as vu dans les extraits, j'avais besoin d'utiliser de l'eau.
L'eau et l'eau.
Fait que... Oui, de l'eau. Puis moi, j'étais prêt à... Normalement, j'aime pas ça utiliser de l'eau de mer, mais j'ai en premier lieu, j'ai proposé d'utiliser de l'eau salée. C'est pas mon choix favori, mais j'ai dit, écoute, ils vont pas m'empêcher d'utiliser de l'eau salée.
C'est dans le milieu de l'océan, ben oui.
Exact. Fait que là, il me dit, non, il faut que tu utilises l'eau douce. J'ai dit, OK, j'utilise l'eau douce. Puis ils m'ont fait sauter à travers toutes sortes d'étapes. Puis là, j'étais rendu au point qu'on avait bâti une piscine hors terre, là, une grosse piscine. Puis il fallait que je la remplisse avec de l'eau de fonte, la fonte des neiges. Okay?
Oh
là, ça devient compliqué. Mais là, sur le site lui-même, j'avais des puits d'observation. Ils m'avaient fait forer des puits pour prendre des échantillons de la nappe d'eau souterraine, OK? Ça fait que j'ai des puits d'observation, j'en ai trois sur le site. Puis un de mes collègues, il dit, écoute, Martin, on peut peut-être prendre un des puits d'observation, mettre une pompe dedans, puis l'utiliser pour remplir le bac, la grosse piscine.
Ben oui.
Fait que là... On s'en va au ministre, on dit est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut utiliser le puits d'observation? Le gars essaye de me bloquer en me disant ben, il va falloir que tu fasses un test. Un test de quoi? Il va falloir que tu testes la capacité du puits d'observation à produire de l'eau. J'ai dit OK. Si je fais un test, qu'est-ce que je fais avec l'eau durant la durée du test?
Ouais,
puis là, le gars, il essaye de me bloquer. Il dit tu peux faire ce que tu veux avec. J'ai dit je prends un test. Hein? Je te donne 250$, donne-moi un permis, je teste le puits. On a testé le puits pendant... Il voulait qu'on le teste pendant 90 jours. Écoute, je l'ai testé pendant une dizaine de jours. J'ai mis l'eau dans le bac, puis away we go.
Il voulait pas que tu prennes l'eau.
Fait que des histoires là. De même, j'en ai plusieurs. C'était comme
incroyable.
Ça tout le temps.
Ben, c'est la maison des fous, là. Vas-y, Max, je sais que t'as une question.
Ben, Martin, toi, t'as travaillé sur Anticosti. On sait qu'il y a du gaz, on sait qu'il y a du pétrole, mais je pense qu'on comprend pas à quel point il y en a. Pourrais-tu nous donner un exemple de mesure, là? Si on était pour extraire les gaz de schiste, le pétrole de cette île-là, à quel point ça pourrait devenir lucratif pour le Québec?
En fait, sur l'île, c'est du pétrole. Non, t'as raison, il y a du gaz. Sur l'île, en dessous de l'île, il y a une faille. D'un côté de la faille, c'est du gaz. De l'autre côté, c'est de l'huile. Nous autres, on estimait à peu près 1 milliard de barils. Ça fait que la consommation du Québec, c'est 2-3 millions de barils par jour. Donc, il y en a assez pour 5-6 ans de production. Mais ça serait du jour au lendemain. Je veux dire, ça serait réparti sur une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Puis ça serait très profitable. Tu sais, 1 milliard de barils à 10 $ de profit par baril, c'est quand même une grosse retombée économique. Ça, c'est juste sur une île. Sur les gaz de schiste le long du Saint-Laurent, mais là, c'est encore beaucoup plus gros. Je veux dire, ça serait une nouvelle industrie.
En Gaspésie, je sais qu'il y a eu de l'exploration. En Gaspésie, est-ce qu'il y en a du pétrole?
Oui, on avait du pétrole, nous autres. On avait trois projets. On avait un sur Anticosti, on avait un à Gaspé même, qu'on appelait Haldimand, puis on avait un à l'intérieur de la Gaspésie, proche de Murdochville. En fait, les puits en Gaspésie sont les seuls qu'on avait qui ont obtenu un bail de production, qui ont pompé, oui.
Puis l'ampleur de ça en Gaspésie, c'était
un petit peu plus petit. Au point de vue pétrole, c'était un petit peu plus petit, mais c'était au tout début. Je veux dire, il faut forer beaucoup de puits pour avoir une meilleure aperçu de la grosseur du réservoir, mais c'était profitable.
Fait que tous ces chantiers-là, tous ces projets-là, finalement, qui ont tombé à l'eau, là, sans faire de mauvais jeu de mots, là.
Ah, ben ça, c'est une drôle. Ça, c'est une autre histoire, hein, parce que, toi, tu l'as mentionné dans l'extrait la semaine passée. Nous autres, on était les premiers à être expropriés. Ça fait que le gouvernement s'est retrouvé avec nos puits qu'on a abandonnés pour eux autres à profit. Un profit, puis je le mentionne, Petrolia, dans le temps, c'était une société québécoise. Donc, les profits sont retournés à des actionnaires québécois. Mais par après, le gouvernement, dans les dernières années, a exproprié toutes les autres sociétés. Ils ont exproprié Junex, Coster, Talisman, Shell, n'importe qui était là. Ça fait qu'aujourd'hui, le Québec, le gouvernement du Québec, des puits, sont responsables pour à peu près 910 puits. Wow. Sur les 910 puits qui sont responsables pour, il y en a 74 qui ont besoin d'être abandonnés. Puis là, le gouvernement, ça fait 7 fois de suite qu'ils font une demande d'offre aux sociétés, une demande d'offre ouverte pour voir s'il y a du monde qui veut venir aider à abandonner les puits. Moi, j'ai aidé une société albertaine 3 fois à répondre à la demande d'offre. On a été accepté, on a qualifié pour la demande d'offre 3 fois, mais ils nous ont jamais donné le contrat. Ils n'ont jamais donné le contrat à personne. Fait que, je ne sais pas qu'est-ce que le Québec essaie de faire avec ça, mais ils ont des puits qui doivent être abandonnés, mais ils veulent le faire avec de l'expertise interne qui n'existe pas.
C'est très québécois, ça. Hey, j'en aurais parlé encore longtemps, mais c'est tout le temps qu'on a, Martin Bélanger. Dernière question, réponse courte. Martin Bélanger est multimilliardaire. Est-ce qu'il investit ses billes si jamais un gouvernement entre-ouvre une porte encore pour de l'exploration où il n'y a rien à faire ici?
La réponse, c'est non. J'ai investi ailleurs.
Bon, ben ça le mérite d'être clair. Merci beaucoup, M. Bélanger.
Bonne soirée. Bonne journée, tout le monde.
Salut,
merci.
Bye, au plaisir.
Merci.
Bye. Martin Bélanger, wow. C'est magique.
Ça va le bon terme, c'est la maison des fous, ça.
La maison des fous, ça. Rien qui fait du sens. Je peux-tu prendre l'eau du puits pour faire mes affaires? Non. Faut que tu fasses un test. Qu'est-ce que je fais avec l'eau du test? Qu'est-ce que tu veux?
OK. Qu'on va remplir la piscine avec l'eau du puits pendant le test. Hein? Ça, c'est maniaque, Red.
Il est fou furieux. 14h14, on vient.
Ouellette, en direct.
Radio X.